Tous réclament des actes plus forts pour lutter contre le changement climatique.
La pollution au plastique, de plus en plus envahissant.
Plus verte la vie. Comment des habitants de notre région, entre Berry, Centre-Val de Loire ou Poitou-Charentes, agissent pour répondre aux défis climatiques. Un podcast du groupe La Nouvelle République.
Être résilient le plus possible.
Pourquoi c'est si compliqué de bien manger ?
Aujourd'hui, il est urgent d'agir.
Circuit court, venir des éco-citoyens.
Préserver la nature et aider les insectes pollinisateurs est à la portée de tous, même en ville et avec peu de terrain. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à La Nouvelle République et Centre Presse dans la Vienne, et je vous propose de découvrir un jardin au naturel chez Agnès Calès et son mari Philippe à Châtellerault.
Je suis Agnès Calès, je suis retraitée de l'éducation nationale et je suis aussi coprésidente du CPIE Seuil du Poitou, Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement.
Donc là, vous habitez à Châtellerault.
À Châtellerault, dans un quartier
résidentiel,
dans le quartier de la Brolandière. Le petit pavillon.
D'accord, en bordure de ville. Ouais. Et donc, alors, quelle a été votre démarche ici ?
Alors, nous, on est arrivés il y a presque 25 ans. Au départ, le jardin était un petit peu agencé, mais c'était pas notre préoccupation première, parce qu'on avait des enfants jeunes. Donc, la préoccupation première, c'était qu'ils puissent jouer. Donc, on a aménagé le jardin de façon à ce que ça soit pratique pour eux. Et puis, au fur et à mesure, on s'est intéressé un peu plus au jardin quand ils ont grandi. On a été sensibilisés aux choses aussi parce qu'on a des amis qui étaient maraîchers bio dans la région toulousaine et chez qui on est allé. On a découvert des tas de choses et on s'est dit qu'on pouvait aussi appliquer chez nous ce qu'on avait découvert.
D'accord, même sur une petite surface ?
Même sur une toute petite surface.
Parce que si vous avez combien de mètres carrés, c'est pas énorme.
Alors hein. Ça, faudrait demander à mon mari, mais autour de 200 mètres carrés, je crois. Hein. Philippe, c'est ça ?
250.
D'accord.
Donc c'est une petite surface, en plus qui n'est pas plane, qui est, comme vous voyez, avec des pentes et des... On va pas dire des escarpements quand même, parce qu'on n'en est pas là, mais voilà, c'est un petit jardin en pente. Et qui se décompose en trois parties, en fait. Sur l'avant, par lequel vous êtes arrivé, où on rentre, c'est une partie où qu'on a plutôt laissée comme elle était, parce qu'il y avait des rosiers qu'on a laissés. Bon, on a complété avec des bulbes, on a complété avec des plantes. Et puis, on a fait un petit carré potager. Et puis, mon papa nous avait planté une glycine, un pêcher, donc on a des fruitiers devant. Mais c'est plus un accès à la maison. Là, on a une deuxième partie qui est un potager, on va dire, un petit D'accord. potager qu'on vient d'aménager là parce qu'en vieillissant, ben voilà, les descentes qui glissent, c'est plus dangereux surtout. Donc, on vient de faire des escaliers et puis des allées un peu plus en dur.
Donc, vous y faites quoi là ?
Alors là, c'est un petit potager.
Qu'est-ce que vous y cultivez là ?
Alors là, l'hiver, on met des fèves. Ouais. Si, vous voyez, D'accord. il y a deux rangs de fèves, des salades. J'avais semé des pois grimpants. Voilà, pour l'instant, ça s'en est là. Mais bon, on y met aussi les tomates, les courgettes, concombres. Alors, on a un gros souci, nous, ici, c'est l'ensoleillement, puisqu'on est plein sud-ouest. Sud. Ah oui. Donc là ça te tape très fort, donc c'est pour ça que vous voyez ces structures en métal sur lesquelles on va faire grimper des plantes pour faire de l'ombre.
D'accord, ça vous voulez faire une sorte de terrasse ombragée mais naturelle.
Voilà, c'est ça. Donc vous voyez là, vous avez un départ d'une plante qui s'appelle une chayotte, qui est le chouchou de la Réunion, ou la christophine, et qui grimpe et qui va couvrir les structures pour faire de l'ombre aux tomates qui seront en dessous. La haie, c'était une haie de Troène, qui est moribonde, en fait. Et vous voyez, dans la haie, il y a des espèces différentes. Donc, on a laissé arder la nature. Donc, par exemple, là, vous avez un églantier, par exemple.
D'accord.
Là, il y a une petite fleur, vous voyez, une petite fleur d'églantier rose, là. Il y a des prunelliers, il y a des aubépines, il y a des chèvrefeuilles qui poussent. On a laissé ces espèces-là pour nourrir les oiseaux l'hiver, ou pour leur donner aussi de quoi nicher.
Il y en a là qui nichent là.
Oui, ouais, on a des merles qui nichent. Bon, on ne sait pas trop parce qu'on ne va pas mettre notre nez. On a arrêté de. On ne taille plus, nous, depuis le 15 mars. On a taillé une dernière fois le 15 mars juste pour la raccourcir un peu et puis un petit peu sur les côtés. Mais là, on n'y touche plus jusqu'à la fin de la nidification. Enfin, jusque même au mois de septembre, on n'y touchera plus. Par quelques petites branches qui vont dépasser, qu'on va couper, mais en hauteur, on n'y touche plus. Donc là, voilà, on a laissé la nature. Un peu reprendre ses droits. On a essayé de planter des lianes comme des kiwis, ou... mais ça ne marche pas, il fait trop chaud, trop sec. Donc on a essayé deux fois, on a laissé tomber. Ici, on n'a pas beaucoup de place, donc pour cultiver, on utilise la hauteur aussi. On a fait des tipis, on cultive des haricots grimpants, des pois grimpants, de façon à compenser le manque d'espace au sol.
Donc ça, c'est parfait pour tous les potagers en ville, quoi.
Voilà, pour un potager. Quand on n'a pas beaucoup d'espace, il faut gagner en hauteur.
En hauteur.
Et puis, il faut planter serré.
Et, et la nature le respecte, ça. Le fait de planter serré, ça gêne pas.
Ah bah, faut un peu faire attention, parce qu'il y a des plantes qui gênent les unes les autres. Mais on essaye de, au pied de, par exemple, au pied des fèves, par exemple, juste devant, on peut mettre des salades parce qu'elles font un peu d'ombre, mais elles ne prennent pas. Et puis les salades, ce n'est pas gourmand. Donc, et puis ça vient vite. Alors qu'on ne va pas mettre un légume qui va mettre longtemps à arriver parce qu'il n'aura plus de lumière. Donc voilà, il faut essayer de jongler avec les différentes spécificités des légumes. Et puis là, on a une parcelle alors qui reste un peu, un peu sauvage parce que vous voyez, il y a les fleurs de mâche parce que je laisse grainer. De façon à ce que ça se ressème d'une année sur l'autre. Et puis derrière, vous avez des fleurs sauvages, des delphiniums, enfin des pieds d'alouette, ça s'appelle, qui vont attirer, elles, les pollinisateurs et puis leur donner un peu à manger. Pour l'eau, on a plusieurs systèmes. On les a installés ce matin, les tuyaux.
Goutte à goutte, hein.
Du goutte à goutte, ouais. Voilà, c'est ça. On a investi dans des zoyas.
Oui, ah, d'accord.
Vous connaissez les zoyas.
Les grandes jarres, c'est ça.
Oui, pas trop, parce que vu la taille du jardin, on est... ouais. Voilà. Et puis, on recueille l'eau de pluie chez nous. On a deux réservoirs, mais bon, c'est très vite parti, quoi.
C'est des jarres qui sont enterrées, ça, les zoyas?
Les zoyas, ouais. Oui. Ouais. Alors, il y en a... Il y en a une qui est dans le pot là-bas, mais les deux autres, elles sont prêtes à être enterrées quand je vais mettre les tomates. Je vais mettre en même temps que les tomates. Voilà, et puis alors si on parle de pollinisateurs, il y a des plantes qui sont un peu... Oups, vous voyez ce que je disais ? Ça glisse. Voilà, ça par exemple, le mahonia, c'est une plante qui fleurit très tôt, au début du printemps, et qui attire les pollinisateurs. Alors je vous les ai laissées, mais elles sont fanées. Mais là, dès qu'il y a un peu de soleil, et quand elle est vraiment fleurie, c'est envahi de pollinisateurs. Il y a des abeilles, il y a des bourdons, il y a tout type de pollinisateurs. L'essentiel, c'est d'avoir une diversité de cultures qui peuvent s'échelonner
toute l'année.
Toute l'année, c'est un peu compliqué. En hiver, on arrive à avoir des soucis. Enfin, on a toujours des soucis.
Oui. Des soucis qui font plaisir, soucis, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Ce sont ces fleurs oranges là, qui arrivent à fleurir. Et quand il y a un petit rayon de soleil, parfois, on arrive à voir, même en hiver, des pollinisateurs dessus. Donc voilà, des plantes très bien pour les pollinisateurs, c'est ça.
Ça, c'est quoi ça ?
C'est de la lavande.
Ah oui, d'accord.
C'est la lavande qui... Mais... Alors, elle est hyper résistante à la sécheresse et au soleil. Donc, pour nous, c'est top. Et qui régale vraiment les pollinisateurs pendant tout l'été. J'aime beaucoup regarder les insectes. Et ici, on a une grande variété d'insectes. On a des mantes religieuses, on a des phasmes, on a des sauterelles, on a des grillons. Enfin, l'été... Et une année, dans les premières années de vraiment canicule, on s'est rendu compte que tout était sec et cuit et qu'il n'y avait plus...
Alors, c'est une averse. Donc, on est dehors. On va se protéger.
Il n'y avait plus d'insectes. Donc, on a décidé, l'année dernière, de laisser des parties non tondues, enfin, plus hautes, pour voir si les insectes pouvaient se réfugier dedans. Alors, c'est... À moitié réussi parce qu'il a fait quand même très chaud et que la plupart des grabinets sont...
Donc parce que alors, tout ça, toute l'autre partie là, c'est la partie du jardin là, que vous laissez...
C'est la partie plus d'agrément.
Ok.
Bon, qui est aussi une partie de vie, hein, parce qu'on a le fil à linge, on a la terrasse, voilà. Mais c'est aussi un endroit... Enfin, chez nous, tout est un peu mêlé. Là, vous voyez, dans le jardin d'agrément, il y a une petite bande qui est désherbée. Je vais planter des tomates au milieu des violettes, au milieu des tulipes. Enfin bon, je mêle un peu fruits, légumes, d'une part parce que je trouve ça beau, ensuite parce qu'on n'a pas trop de place, et puis que bah, c'est bien aussi pour les pollinisateurs d'avoir tout à manger sur place.
Alors qu'est-ce que vous trouvez comme, justement, comme animaux ici ? Donc il y a les oiseaux, il y a les insectes, il y en a d'autres là, qui viennent ici ?
Oui, on a régulièrement la visite de hérissons.
Ah oui ?
Ah oui, c'est chouette, c'est très chouette. Alors on le voit pas toujours, on les voit pas toujours, mais on voit les crottes. Il y a des crottes dans le jardin. Et puis en été, ça nous est arrivé d'être sur la terrasse le soir et puis d'entendre du bruit et puis de les voir, qu'ils viennent manger parce que il n'y a pas de produits chimiques. Donc les escargots, on en a beaucoup. Donc ils viennent se nourrir d'escargots chez nous. Donc quand ils sont là, ça régule quand même la population d'escargots de limaces.
Oui, parce que sinon, vous en avez beaucoup.
Notamment
dans les salades. Hein.
Les salades, partout. Ils se cachent partout. Il y en a vraiment partout. Des fois, on râle un peu parce que... Mais j'ai un fils qui dit, mais c'est l'éco-taxe. C'est l'éco-taxe. Voilà, il faut faire avec.
Et vous, justement, les salades, là, vous ne les traitez pas, vous
laissez faire... Je traite. Chez nous, c'est zéro pesticide, zéro herbicide.
Et vous arrivez quand même à manger de la salade?
Oui. Oui. Il faut surveiller un peu quand même. Hein.
Ça se calme un peu, on peut aller juste voir un peu si ça glisse pas. Parce qu'effectivement, c'est un peu en pente.
Donc là, vous avez aussi un arbuste qui attire des insectes, le photinia.
D'accord.
Sur lequel on voit des insectes magnifiques.
Ça, c'est un photinia. Ouais,
j'aurais
dit que c'était un laurier, mais non.
Non, un photinia, vous voyez, il a des feuilles rouges quand elles sont jeunes et ensuite elles deviennent vert foncé, brillantes. C'est un arbre tout à fait classique des haies, ça. Hein. Vous en verrez partout. Hein.
J'en ai un chez moi.
Bah voilà. Ça s'appelle un photinia. Alors, il faut le laisser fleurir, parce que sur les fleurs, vous allez voir arriver des insectes, des espèces de scarabées, des coléoptères, des scarabées verts brillants, qui s'appellent les cétoines, et c'est magnifique.
D'accord.
C'est des insectes, parce qu'ils adorent venir manger des fleurs du photinia. On les trouve sur le photinia et on les trouve aussi sur les fleurs de pivoine. Alors là-bas, il y a des fleurs de pivoine, mais comme elles ont fleuri très tôt cette année, on n'a pas eu l'occasion de voir les cétoines sur les photinia.
C'est déjà terminé pour le...
Pour les pivoines arbustives.
D'accord.
Mais on a des pivoines herbacées qui vont fleurir. Qui n'ont pas encore fleuri. Donc voilà, ça c'est aussi une autre plante qui attire bien les pollinisateurs. C'est la, vous connaissez ?
Non.
La monnaie du pape.
Ah oui, si.
Vous voyez, ça va faire des graines.
Oui. Ah, mais je ne savais pas que ça faisait des feuilles comme ça aussi triangle. Hein. Mm-hmm. Moi, je connaissais, les feuilles comme ça.
Les petites graines, qui deviennent transparentes et qui sèchent. Donc ça attire aussi beaucoup les pollinisateurs. Du serpolet. Alors, quand il est en fleur, c'est pareil. Les abeilles aiment beaucoup ça. Ça, ce sont des petites orchidées sauvages que j'ai sauvé de chez la voisine de ma maman qui allait tout arracher, donc je les ai récupérés, je les ai plantés chez moi. Voilà. Sinon, les giroflées aussi, ça attire bien les pollinisateurs. Et donc ça, c'est la partie... Alors là, c'est une grande ciste.
C'est quoi une ciste ?
Alors une ciste, c'est un arbuste méditerranéen qui aime beaucoup le soleil et la sécheresse et les sols pauvres, ce qui est le cas ici, puisque c'est une terre de remblai qu'on a nous. Qui fait des fleurs blanches, ça peut être blanc ou rose, mais celle-ci elle est blanche et qui s'épanouissent, qui durent une journée, mais qui se renouvelle très longtemps, en fait. Et c'est magnifique, j'aime beaucoup ça. Donc ça, c'est pareil, ça attire bien les insectes.
Alors ici,
Là, c'est la partie qui n'est pas tondue.
C'est ça, ici on ne tombe pas. Hein.
Non, ici.
Il y a juste des petites allées, et même pas vraiment tout à fait tondues.
Mais ça a repoussé, donc il y a les pâquerettes qui repoussent.
Mais sinon,
dedans.
Et
puis quand je tombe, j'essaye de ne pas tomber trop ras non plus, de façon à ne pas tuer toute l'herbe, parce que chez nous, ça devient vite, très 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 vite, même de la terre, en fait, de la poussière, parce qu'il n'y a pas d'eau. Et puis du fenouil, parce que ça, c'est une autre plante que moi, j'aime beaucoup, le fenouil sauvage, là. Parce que nous, on s'en sert, on en mange.
Ouais.
On en met sur on mange pas le bulbe, parce que c'est pas du bulbe.
C'est pas ceux de...
Non,
d'accord.
C'est des sauvages. Mais on mange quand même dans la tige le cœur, qui est très, très tendre. Et on mange les feuilles sur du poisson, par exemple. Et les graines nous servent dans les petits gâteaux apéritifs, les taralis, c'est délicieux.
D'accord.
Donc, on les mange. C'est joli. Et puis, ça attire un papillon... magnifique qui s'appelle le macaon et qui pond sur ses, sur les le fenouil. Alors là devant vous, vous avez un arbuste qui s'appelle l'abélia et comme son nom l'indique, abélia, ça attire les abeilles.
D'accord.
Quand il va être fleuri, il va être magnifique.
Qui pousse sous le figuier.
Qui pousse sous le figuier, enfin à côté du figuier, ouais. En bonne intelligence. Le romarin, ça c'est aussi un arbuste qui affectionne les abeilles. Voilà, dans le fond, là, bah, c'est le
compost.
Le coin un peu technique, hein, compost. Pour l'instant, on a des branches qu'il faut qu'on broie. On essaye de broyer tout ce qu'on taille pour le mettre au pied des arbustes. Et puis, l'année dernière, j'ai planté des orties. Pour attirer, pas pour faire du purin, tout ça, parce qu'il n'y en aura jamais assez, mais pour attirer des papillons. Un papillon, je crois, qui s'appelle la vanesse, qui pond sur les orties. Donc là, c'est deux arbustes, le millepertuis arbustif et puis un cognassier du Japon qui fleurissent aussi. Ça fleurit en début d'hiver, donc c'est pareil pour les pollinisateurs, c'est bien. Et ça fleurit pendant l'été. En été, il n'y a pas forcément beaucoup à manger pour les insectes.
Donc là, on est en ville, on est même au bord de l'autoroute, hein, qu'on entend. Hein, et donc avec plein de voisins. Qu'est-ce qu'ils en disent, les voisins? Ils n'ont pas peur que ça amène des animaux, tout.
Alors,
ça, vous avez pas trop de
problèmes? On n'a pas de soucis avec nos voisins proches. Par contre, on a parfois des remarques des gens qui se promènent en disant
« Ah, c'est sale.
Ça se voit, hein, c'est un jardin naturel, ben, ça se voit. Hein. » L'air de dire…
Parce qu'il ne fait pas très propre.
Ça ne fait pas propre.
Ça ne fait pas bien rangé, pas bien soigné.
Voilà, c'est ça. Mais en même temps, on ouvre notre jardin pour Bienvenue dans mon jardin au naturel au mois de juin. Ça fait 5 ans qu'on le fait et on n'a que des retours positifs de gens qui essayent de concevoir le jardin un peu autrement.
Ça donne envie, vous savez que vous avez fait
oui,
des petits là.
Il y a des gens qui nous ont dit en partant, ça donne envie de s'y mettre. Mais, voilà, si ça donne envie de s'y mettre, c'est notre bonheur, quoi, c'est notre réussite.
Voilà, c'est déjà fini, mais vous pouvez nous retrouver dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés.